Alors notre lecture ce matin se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 10, et c'est à la page 578. Page 578. Avant de faire la lecture, je vais prier. Prions. Père, nous sommes devant toi ce matin et nous voulons te demander de nous enseigner. Enseigne-nous ce matin. Nous avons besoin de ta parole fortifiante, ta parole bienveillante. Nous avons besoin de mieux te connaître, d'avoir une vision renouvelée de ta personne, de ta grandeur, de ta puissance, de ta souveraineté, de ton amour. Père, nous avons besoin de cette vision. Nous avons besoin de voir plus clair pour que nous puissions te servir plus fidèlement, pour que nous puissions t'aimer davantage, pour que nous puissions rester fidèles. Et Père, nous voulons te demander ce matin, parle-nous, enseigne-nous ce matin. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Alors, Daniel 10, verset 1, donc c'est la page 578. La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelé Belshazzar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. Daniel fut attentif à cette parole et en eut la compréhension à travers ce qu'il voyait. À cette époque-là, moi, Daniel, j'étais 3 semaines dans le deuil. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, c'est-à-dire le Tigre. J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme, habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or, d'Ufas. Son corps était comme de chrysolite. Son voyage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du bronze poli, et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vu, mais une grande frayeur s'est emparée d'eux. Ils ont pris la fuite pour se cacher. Resté seul, j'ai vu cette grande apparition et je me suis trouvé sans force. Mes traits se sont décomposés et j'ai perdu toute force. J'ai entendu le son de ses paroles. Et en l'entendant, je suis tombé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Mais une main m'a touché, m'a mis tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis l'homme m'a dit, « Daniel, homme considéré comme précieux, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout là où tu es. En effet, j'ai été maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'a dit cela, je me suis tenu debout, tout tremblant. Il m'a dit, « Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. » Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans l'avenir, car la vision concerne encore cette époque-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, je regardais par terre et restais silencieux. Quelqu'un qui avait une apparence humaine a touché mes lèvres. J'ai ouvert la bouche et me suis mis à parler. J'ai dit à celui qui se tenait en face de moi, « Mon Seigneur, j'ai été bouleversé de douleur par cette apparition et j'ai perdu toute force. Comment pourrais-je, moi, ton serviteur, te parler à toi, mon Seigneur ? Désormais, je n'ai plus de force, il ne me reste plus de souffle. » Alors celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché et m'a fortifié. Il m'a dit, « N'aie pas peur. Homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. J'ai alors dit, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il m'a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je retourne combattre le chef de la Perse. et quand je partirai, le chef de la Grèce viendra. Cependant, je veux t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre cela, excepté Michel, votre chef. Quant à moi, la première année du règne de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui, pour lui donner force et protection. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, le poids du mal peut parfois nous sembler accablant. J'imagine pour les chrétiens en Corée du Nord, dans ces camps de concentration, que bien souvent, le poids du mal doit sembler accablant. On peut penser également à ces chrétiens en but à la persécution avec Daesh au Moyen-Orient aussi. Le poids du mal. En plus, ce mal semble si irrationnel. Il s'acharne contre les faibles. Rien ne le contente. Ce mal semble irascible. Dans une moindre mesure, ou peut-être sur une échelle différente, nous, on peut avoir l'impression qu'il y a des choses néfastes qui nous tombent sur la tête, qui ne cessent de tomber sur notre tête. Des combats dans la vie quotidienne qui semblent accablants. Ça dépend des personnes peut-être, mais parfois, y a des personnes, je pense, qui se disent « Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi moi ? Et pourquoi tant de fois ? Qu'est-ce qui se passe ?» Ce passage ce matin va nous donner un aperçu d'un autre monde, d'une autre réalité. Une réalité qui, si souvent, nous échappe. Il y a quelques semaines, à partir du chapitre 8, nous avons dit qu'un homme averti en vaut deux. Et il me semble que c'est cette même logique qui est à l'œuvre dans ce passage. Alors, ce qui est en jeu n'est pas tant l'avenir, mais le fait de voir clair sur cette autre réalité. On a besoin de voir, de comprendre qu'il y a cette autre réalité si on va tenir bon. Donc, on a besoin d'être averti de ce qu'il y a, cette autre réalité. Alors, ce chapitre 10 qu'on vient de lire est en réalité l'introduction au chapitre 11 et 12, là où on voit le cœur de la vision. Donc, Dieu nous a donné une longue introduction à cette vision importante, mais en fait, ces trois chapitres vont bien ensemble et nous donnent une vision pour nous aider à vivre la foi chrétienne, vivre la vie chrétienne. Et tout comme on a vu dans tout ce livre de Daniel, on va y découvrir un Dieu souverain qui est très grand, qui est très puissant et qui est bienveillant. Et en même temps, on va voir des combats, des conflits. Et en particulier, ce combat qu'on a vu tout au long du livre entre le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Et on le voit dès le début de ce passage. Au verset 1, on lit « La troisième année de règne de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, appelée Belshazzar. Cette parole est vraie et annonce un grand combat. » Nous sommes de nouveau dans ce thème du combat. Un grand combat. On va voir, surtout lorsqu'on aborde le chapitre 11 dans quelques semaines, après les vacances, que c'est un combat qui implique la souffrance. La souffrance du peuple de Dieu. On va voir dans cette vision que Daniel nous donne au chapitre 11, chapitre 12, à quoi ce combat va ressembler. Dans les lieux célestes, mais peut-être pour nous aussi sur notre terrain, sur le terrain terrestre. Mais en tout cas, pour ce passage, j'ai trois points ce matin. D'abord, un combat. On va voir un combat. Et ensuite, dans ce combat, un champion. Et finalement, une arme. Dieu nous donne une arme. Donc un combat, un champion et une arme. On a déjà vu que voilà, il y a un combat. Ça, c'est ce que le verset 1 nous dit. Mais la suite de cette vision nous montre qu'il s'agit d'abord et avant toute chose d'un combat spirituel, céleste. Oui, un combat spirituel céleste qui a des ramifications dans notre réalité terrestre, dans l'histoire humaine. Mais il y a quand même un combat, dans le fond, un combat spirituel, céleste. Et Dieu, par Daniel, veut que nous en prenions conscience. Daniel nous explique au verset 4 et 5 que lorsqu'il était à côté de ce fleuve, le Tigre, après plusieurs semaines de jeûne et de prière, qu'il a eu une vision. Et plus spécifiquement, une vision d'un homme extraordinaire. On va revenir dans un instant à l'identité de cet homme, mais j'aimerais que nous voyions d'abord qu'il s'agit d'un guerrier. Un guerrier qui vient du combat. Au verset 12 et 13, qu'est-ce qu'on lit ? Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là, près des rois de Perse. Alors cet homme mystérieux vient du combat. Il vient de lutter pendant 21 jours contre le chef ou contre le prince de Perse. Et ça, il a fait avec Michel, avec Michael. C'est un ange, c'était un ange. Ensuite, on voit dans ce passage qu'il a été auprès des rois de Perse. Alors tout ça est quand même étrange, mystérieux. Ensuite, au verset 20, on lit... L'homme lui a dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Maintenant, je retourne combattre le chef, le prince de la Perse. Et quand je partirai, le chef ou le prince de la Grèce viendra. » Cet homme étrange, mystérieux, évoque des royaumes humains, donc la Perse, ce qui est aujourd'hui l'Iran pour la plupart, et la Grèce. Mais il semble révéler en même temps une réalité spirituelle, un combat spirituel dans lequel il est engagé, impliqué. Et ça veut dire que ce qu'on voit avec nos yeux physiques humains n'est pas la totalité de la réalité. Il y a une réalité céleste, un combat céleste. Il semble qu'il y a un combat entre... puissance spirituelle qui se donne à voir, partiellement en tout cas, dans ces combats entre les royaumes de ce monde. Parce que ce prince de Perse, chef des Perses, n'est pas le roi des Perses. Ce n'est pas le même personnage. C'est plutôt un ange ou un démon qui s'oppose à cet homme glorieux qui parle à Daniel. Ça semble être un ange ou un démon qui est un peu derrière le roi de Perse ou qui essaie d'influencer cette nation ou qui essaie d'influencer le cours de l'histoire, en tout cas en ce qui concerne cette nation. Cet homme mystérieux, appuyé de Michel, qui est un peu le prince spirituel attaché au peuple de Dieu, a combattu cet ange ou ce démon de Perse. Il revient de ce combat. Et on voit au verset 1 du chapitre 11 qu'il a même eu une victoire sur ce démon. Parce qu'on voit qu'il a été auprès du roi Darius, le Mède. Les Mèdes et les Perses sont bien ensemble. Et les Mèdes et les Perses ensemble ont permis la libération du peuple de Dieu. Donc, de ce combat sort quelque chose qui a fait du bien au peuple de Dieu. Donc, Dieu veut que Daniel et que ceux qui lisent ce livre de Daniel, donc y compris nous ce matin, il veut que nous prenions conscience de ce qui est un combat spirituel dans les lieux célestes contre les puissances. Il y a des puissances qui sont en guerre contre le peuple de Dieu. Et contre Dieu lui-même. Alors la Bible ne parle pas tout le temps de ce combat. Ce n'est pas la vision qu'elle nous donne tout le temps. Mais en même temps, elle est loin d'oublier ce combat. Parce que dès le jardin d'Éden, jusqu'aux dernières pages de la Bible, on voit ce combat quand même, dans les coulisses, à l'arrière-plan. La Bible parle de cette réalité spirituelle d'une opposition forte, maléfique, à l'égard de Dieu, à l'égard de son peuple. On peut penser à Jésus-Christ lui-même, au début de son ministère. Il est tenté par le diable. Il y résiste. Il en bute aux attaques. Ensuite, dans son ministère, on voit que Jésus s'attaque au mal, au malin, à la maladie, à la mort. On voit avec Judas aussi qu'il est poussé par le diable à trahir Jésus. Il y a un combat spirituel. À la croix, Jésus semble être vaincu par la mort et donc par le diable. Mais en fait, à la croix, Jésus a vaincu, on l'a vu la fois dernière, c'est à la croix que Jésus a vaincu la mort en payant le prix pour nos péchés, pour que la mort ne peut plus nous toucher. C'est comme ça qu'il a eu la victoire. C'est comme ça qu'il a eu la victoire sur le diable. Et on voit sur la dernière page de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, on voit cette victoire finale de Jésus sur le mal, sur le diable. Donc, toute la Bible nous parle de ce combat spirituel. Et dans ce livre de Daniel, Daniel veut qu'on prenne conscience. Dieu veut que nous en prenions conscience. En tant que femmes et hommes occidentaux, je pense qu'on n'est pas toujours très à l'aise avec cette vision des choses. Notre société se veut rationaliste. Et je pense que notre société considère une telle vision des choses comme obscurantiste. Mais je pense que si on enlève cet aspect spirituel de l'équation, on a du mal à comprendre la réalité qui nous entoure. Cette semaine encore, ce jeune homme qui s'est tiré une balle dans la jambe voulait s'attaquer à des églises en région parisienne. Qu'est-ce qui est derrière cette idéologie mortifère? Nous avons commémoré le triste 100e anniversaire du génocide arménien. 1,5 million d'Arméniens sont morts. Qu'est-ce qui a conduit une nation, je pense qu'elle était laïque à l'époque, qu'est-ce qui a conduit une nation à faire ça? La haine qui a animé la pensée de Hitler, qui a même aveuglé assez rapidement un peuple européen, a conduit à l'Holocauste. On est loin du rationalisme. L'homme est vraiment spirituel. Il y a un combat spirituel. La réalité, on voit bien la réalité du mal maléfique. Et Dieu veut que Daniel et que ceux qui lisent son livre, y compris nous ce matin, en prennent conscience. Il y a un vrai combat. Un combat spirituel dans les lieux célestes. Et l'apôtre Paul, dans son épître à l'église d'Éphèse, nous dit sensiblement la même chose. Là, Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons besoin d'ouvrir l'œil, et je pense en tant qu'occidentaux, on a vraiment besoin de voir, ah oui, il y a quand même cette réalité. On a bien besoin de comprendre, oui, il y a un combat spirituel dans les lieux célestes. Après la réalité du combat, Dieu veut nous montrer que nous avons un champion. Nous sommes à ce deuxième point ce matin. Par cette vision, Dieu veut montrer à Daniel et à ses lecteurs que dans ce combat, c'est Dieu lui-même qui est notre champion. C'est lui-même, c'est Dieu qui lutte en faveur de son peuple. C'est Dieu qui est notre champion. On va revenir à notre homme un peu mystérieux. Cet homme qui est apparu dans la vision de Daniel. Verset 5, j'ai levé les yeux et j'ai vu un homme habillé de lin. Il avait autour de la taille une ceinture en or d'uphaze. Son corps était comme de chrysolite, une pierre précieuse. Clair, je pense. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient parés à des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblait à du bronze poli et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Et Daniel est resté bouche bée. Je me suis retrouvé sans force, dit Daniel. Mes traits sont décomposés. J'ai perdu toute force. Son visage est contre terre. Ça nous rappelle un peu l'apôtre Paul ou Saül sur le chemin d'Emmaüs, sur le chemin de Damas. Il a eu cette vision, c'est lui seul qui l'a vu, mais les autres en ont eu peur. Il a vu Jésus. Alors, qui c'est cet homme qui lui est apparu, qui lui a parlé et qui, dans la suite, va lui donner une vision de l'avenir? Qui c'est cet homme envoyé par Dieu? Est-ce Dieu lui-même? Est-ce Jésus-Christ avant l'heure, un peu avant l'incarnation? Est-ce un ange de Dieu? Alors la réponse simple, c'est qu'on ne sait pas. En faveur de ceux qui pensent que ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, c'est peut-être plutôt un ange de Dieu, ben, ils vont peut-être nous montrer le verset 13, où on voit que cet homme, en fait, Michel est venu à son aide. Donc, oui, c'est vrai que, est-ce que Dieu a besoin de l'aide de Michel? Je ne sais pas. En tout cas, ce personnage est quand même bien glorieux, habillé en lin, ceinture en or. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes, flammes de feu. Sa voix était pareille au bruit d'une grande foule. Le lin nous rappelle dans l'Ancien Testament le lin des vêtements des prêtres. Cette chrysolite, cette pierre précieuse, claire, était également incrustée dans le pectoral du prêtre. Elle était dans le jardin d'Éden, ce temple. Et aussi dans la vision d'Ézéchiel, où Ézéchiel a vu Dieu. Il y avait cette pierre précieuse dans les roues du trône de Dieu. Et les éclats sont souvent attribués à Dieu. Plus loin dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, en exil sur l'île de Patmos, a vu aussi une vision d'un homme. Il a vu une vision de Jésus. Il a décrit ainsi. C'est l'apôtre Jean qui parle. « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grands eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil, lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. Je dis mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Et très clairement, il y a quand même des similitudes entre ces deux visions. Il n'y a pas de coïncidence. Alors, pour ma part, je ne suis pas sûr, mais je suis tenté de penser que peut-être Daniel a vu Jésus-Christ avant l'heure, avant son incarnation. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, Fils de Dieu de toute éternité. Je me demande, peut-être il l'a vu. Ensuite, on voit aussi dans la vision de Daniel, des similitudes aussi, verset 18, verset 19. Alors, celui qui avait apparence humaine m'a de nouveau touché, il m'a fortifié, il m'a dit, n'aie pas peur, homme considéré comme précieux, que la paix soit avec toi. C'est ce que Jésus a dit après la résurrection à ses disciples. Fortifie-toi, fortifie-toi. Pendant qu'il me parlait, j'ai repris des forces. En tout cas, Daniel a besoin de voir cette vision. Il avait besoin de voir cette vision avant d'entendre la grande vision qu'il allait entendre, pour être en mesure de la supporter. Et c'est une grâce que Dieu lui fait. C'est une grâce que Dieu nous fait aussi. Avant de nous donner une vision de l'avenir, d'un combat à venir qui va être difficile à supporter, on va voir ça au chapitre 11. Qu'est-ce que Dieu fait? En fait, il nous donne une vision de lui-même, de sa force, de sa pureté. Et il veut nous montrer qu'il est bien là, qu'il n'est pas absent. Il revient du combat, il repart au combat, il est avec son peuple, il n'est pas absent. Dans la suite du passage, on voit que cet homme repart au combat. C'est lui qui retourne à la bataille céleste. C'est lui qui, au premier verset du chapitre 11, semble avoir déjà remporté la victoire. C'est ce qui ça a permis au peuple de Dieu de revenir sur ses terres. Alors, c'est une illustration complètement décalée, en quelque sorte. Mais il y a quelques semaines, j'ai vu un film qui s'appelle American Sniper, tireur d'élite américain. C'est l'histoire vraie d'un soldat, d'un tireur d'élite, pendant la guerre en Irak. Un homme baraqué, dur, discipliné, qui allait sur les toits pour aider les marines, les soldats en bas qui allaient de porte en porte dans la bataille de Fallujah pour dénicher l'ennemi. Et ces marines étaient confortées, rassurées de savoir qu'il y avait un homme, un tireur d'élite au-dessus d'eux, sur les toits, qui les protégeait, qui veillait sur eux. Bon, c'est une illustration complètement décalée parce que Dieu n'est pas un tireur d'élite. Il n'est pas dans la guerre d'Irak, qui est quand même une guerre discutable. Mais il est bien au-dessus de nous. Il est bien le meilleur. Ce soldat américain n'était qu'un homme, bien faillible, on le voit bien dans ce film. Mais par cette vision, Dieu montre à Daniel qu'il est là, qu'il est fort, qu'il est puissant, qu'il est plus fort que l'ennemi et qu'il se bat pour son peuple, qu'il est avec son peuple, qu'il va remporter la victoire, qu'il a déjà remporté la victoire. Parce que, verset 1 du chapitre 11, le peuple est déjà revenu de l'exil. Et comme Daniel, nous avons besoin de voir notre Dieu, de le connaître dans toute sa gloire resplendissante. Nous avons besoin de voir qu'il est vraiment souverain, qu'il est vraiment au-dessus du mal, qu'il est bien supérieur, plus puissant que le mal, et qu'il est bon, qu'il est avec nous, qu'il ne nous lâche pas, qu'il est notre prêtre qui nous fortifie, qu'il est notre prêtre qui a enlevé nos péchés. Si on ne le voit pas, si on l'oublie, si on le met de côté, on va être affaibli, on va avoir peur. On ne va pas être en mesure de résister dans cette bataille. On va voir dans le chapitre suivant, c'est au verset 32 en fait, du chapitre 11, il y a un verset qui résume peut-être l'application clé de tout ce livre de Daniel. Je cite, « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » On a besoin de connaître notre Dieu. Vraiment de le connaître tel qu'il est vraiment, si on va tenir ferme, si on va agir avec fermeté. En fait, nous avons besoin de voir Jésus-Christ, notre champion. C'est lui notre champion. Et ça, on le sait parce qu'il est déjà allé à la croix. C'est là qu'il est allé s'en découdre avec le mal et le malin. Il a fait en portant notre châtiment. Il a porté le châtiment pour les fautes de son peuple, pour payer le prix, pour que la mort, le juste châtiment pour nos fautes, ne nous touche plus, pour que la mort ne puisse plus nous toucher. Et on a vu, parce que Jésus a satisfait la justice de Dieu, que Dieu l'a relevé d'entre les morts. La mort n'a plus de prise sur lui et sur tous ceux qui se sont confiés en lui. Jésus a déjà remporté la victoire ultime sur notre ennemi, la mort et le diable. On a besoin de voir ça. Parce que le combat, on va voir la semaine prochaine au chapitre 11, ce combat persiste. Ça fait 10 chapitres que Daniel résiste. Il est dans le combat. Donc on a besoin de savoir que Jésus est là, le champion est là, et qu'il a déjà remporté cette victoire. On a besoin de cette connaissance de lui. Il est bien là, il est souverain, il est fort, il est supérieur au mal. Il est notre champion, c'est le seul champion, le seul qui a remporté la victoire finale. Mais dans ce combat, est-ce qu'on n'a aucun rôle? Est-ce qu'on est juste passif derrière notre champion? C'est clair que c'est que lui, c'est que Jésus qui a vaincu notre ennemi. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Mais comme on voit dans la vie de Daniel, comme on voit dans la vie des saints, des justes, ceux qui ont mis la confiance en Dieu s'activent. Ça faisait 3 semaines que Daniel s'activait, il priait, il jeûnait avec une intensité extraordinaire. C'est ce qu'on voit au verset 2. Et au verset 12, cet homme mystérieux fait mention des prières de Daniel. Des prières insistantes, répétées, persistantes. C'est parce que la prière, c'est notre arme. Nous sommes donc à notre dernier point pour ce matin. Le combat, oui. Il y a un combat spirituel, c'est vraiment vrai. On a un champion qui a tout fait, qui a vraiment remporté la victoire totale, de manière totale. Et notre arme, c'est la prière. Nous avons vu Daniel dans la prière au chapitre 9. Là, il a intercédé pour son peuple, pour que Dieu, qui avait déjà annoncé qu'il allait faire revenir son peuple sur sa terre après l'exil. Daniel a prié, il a intercédé pour son peuple pour que les plans de Dieu s'accomplissent. Et au chapitre 10, on voit que cette promesse s'est bel et bien accomplie. Le verset 1 nous dit que nous sommes à la 3e année du règne de Cyrus. Et nous savons qu'à la 1ère année de son règne, il a donné un édit qui a permis au peuple de Dieu de revenir à Jérusalem. C'est ce qu'on voit dans le livre d'Esdras. C'est raconté dans le livre de Néhémie aussi. Alors si ce peuple est déjà rentré, en tout cas ceux qui voulaient rentrer, il y a juste quelques-uns qui sont rentrés, pourquoi est-ce que Daniel est encore sur ses genoux? Pourquoi est-ce que Daniel prie? Pourquoi est-ce qu'il jeûne de manière si intense? En fait, on ne sait pas exactement. Le texte ne nous donne pas une réponse simple. Par contre, nous savons d'Esdras, par exemple, Esdras chapitre 4, que le peuple est revenu de l'exil, passé par des moments très difficiles. Ce n'était pas simple. Et il se peut que Daniel était dans l'intercession pour le peuple de Dieu. Daniel n'était pas rentré lui-même, on ne sait pas pourquoi. Peut-être il était trop âgé, il avait peut-être déjà 80 ans. Ou peut-être il savait qu'il fallait qu'il y ait un homme auprès du roi pour prier, pour intercéder pour le peuple dans les coulisses. En tout cas, Daniel savait à quel point la prière était importante. Ce n'est pas que la prière en elle-même change les choses. Il n'y a que Dieu qui change les choses. Mais dans sa souveraineté, Dieu daigne se servir des prières des justes pour accomplir ses propres desseins. Souverain. La prière, c'est cette humble confiance en Dieu, cette humble confiance en le champion qui a tout fait. C'est cette humble demande à Dieu d'accomplir sa propre volonté et de le faire pour sa gloire. Ça, on l'a vu la fois dernière dans la prière de Daniel. Daniel, parce qu'il connaissait Dieu, parce qu'il connaissait la parole de Dieu, parce qu'il connaissait les promesses de Dieu, il savait comment prier. Il priait que la parole de Dieu s'accomplisse pour la gloire de Dieu. Il priait sans doute pour que Dieu intervienne dans la vie de son peuple, qu'il sauve son peuple, qu'il se glorifie dans ce salut. Peut-être il prie aussi pour qu'il puisse mieux comprendre ses visions. Ce qu'on voit au verset, au chapitre 10, qu'enfin il commence à comprendre ces choses. En tout cas, on voit que Dieu a bien répondu à ses prières. Au verset 12, on lit, il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause d'elles que je suis venu. C'est à cause des paroles, des prières de Daniel que cet ange de Dieu, ou Jésus-Christ, ou Dieu lui-même, est venu le voir pour lui parler. Dieu n'est pas insensible à la prière. Et ensuite, ce guerrier veut montrer à Daniel ce qui va se passer à l'avenir. Et sans doute pour alimenter ses prières, pour que Daniel puisse prier pour son peuple, pour que nous puissions prier, pour que nous puissions prier aussi pour son peuple. Pour que pendant ces heures difficiles à venir, on peut prier pour le peuple de Dieu, pour que Dieu l'enracine dans ses promesses, dans sa parole, pour que Dieu le soutienne, pour que Dieu ait la victoire ultime. Il y a un combat spirituel. Et Dieu veut qu'on soit au clair. C'est un dur combat. Mais dans ce combat, le champion, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Et nous, dans tout ça, notre rôle, notre place, comme pour Daniel, c'est dans la prière. Je ne pense pas qu'il faille dire, à la lumière de toutes les Écritures, qu'il y a juste la prière. Il y a aussi peut-être l'annonce de la parole. Et Daniel aussi était dans l'annonce de la parole. Il est même par son livre en train d'annoncer la parole. Mais dans ce chapitre, dans ce livre, peut-être l'accent est mis là-dessus, dans ce combat. Notre rôle, c'est la prière, parce que le rôle actif appartient à Dieu. Le champion, c'est Jésus. C'est lui qui remporte la victoire. Et c'est pour ça que si on pense à la vie de notre Église, la réunion de prière, une fois dans le mois, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est là ensemble, devant Dieu, en train de prier pour le ministère de l'Église, en train de demander à Dieu d'agir pour sa gloire, de lui demander d'agir à l'école du dimanche, dans le groupe des seniors, dans nos témoignages, dans nos voisinages, au travail, dans nos familles, pour que la prédication, semaine après semaine, porte du fruit, que des personnes rebellent à Dieu, fléchissent le genou devant Jésus et le connaissent, et connaissent Dieu comme un bon Père céleste. Le calendrier de prière aussi, c'est aussi un outil pour ça. C'est important. Je sais qu'on ne peut pas tous venir le jeudi soir. La réalité de la vie familiale fait que ce n'est pas toujours possible. Mais on peut tous prier et c'est important. Dans un commentaire que j'ai lu en préparant ce message, l'auteur Sinclair Ferguson cite l'exemple d'une vieille dame dans une église que moi j'ai connue quand moi j'étais étudiant en Écosse. Il cite l'exemple d'une vieille dame qui dans sa jeunesse avait été bien active dans le ministère parmi les jeunes. Mais dans sa vieillesse, Dieu avait mis sur son cœur de prier pour sa ville et de prier pour que Dieu suscite un pasteur, pour qu'il y ait vraiment du fruit, pour que quelque chose se passe dans sa ville. Et elle a vu l'exaucement de sa prière. Parce qu'en effet, dans son église, vers la fin de sa vie, tu as suscité un pasteur qui a eu un ministère remarquable sur plusieurs décennies. C'est une église, ce n'est pas une méga church, mais c'est une assez grande église. Cette église a envoyé beaucoup de missionnaires. Beaucoup de pasteurs ont été formés dans cette église. Comme moi, je suis allé juste de temps en temps. Ce pasteur était très âgé. Il avait peut-être plus de 80 ans. Il était tout frêle. Il prêchait assis avec un petit micro comme ça parce qu'il n'arrivait pas à se tenir debout. Mais Dieu, dans sa bonté, a suscité la prière de cette vieille dame. Une prière pour sa gloire, en faveur de son peuple dans sa ville et aussi pour son peuple ailleurs qui a été béni par ce ministère. Et il semble que Dieu y a répondu favorablement. Dans la prière, sur nos genoux, dans la dépendance de Dieu, qui est notre champion, par la foi, nous sommes bien actifs dans cette bataille. Même si champion, oui, c'est Dieu, c'est lui qui emporte la victoire. L'épître de Jacques nous dit que la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Ça veut dire que ce n'est pas juste une question d'être fervent. Mais comme pour Daniel, il faut un cœur qui aime Dieu, un cœur qui connaît Dieu, un cœur qui se soumet à Dieu, un cœur qui s'aligne sur les priorités de Dieu, qui s'aligne sur sa volonté. Et Dieu répond favorablement aux prières d'un tel cœur. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'armure du chrétien, c'est un passage célèbre donc, dans Éphésiens 6, il ajoute à la fin, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et quand nous voyons, quand nous allons voir ce que Dieu va nous dire au chapitre 11, on va voir la pertinence de cette exhortation à prier pour les saints. Je pense qu'on voit déjà la pertinence en quelque sorte. On a évoqué au début la persécution des chrétiens en Corée du Nord, au Moyen-Orient. On a parlé aussi des malheurs qui peuvent nous tomber sur la tête aussi. On peut nous sentir accablés par ces choses. On a besoin de voir clair, oui, il y a un combat spirituel. Ça nous dépasse par moments, mais il y a un combat spirituel. On a besoin de voir clair sur notre champion, de nous rappeler qui il est, sa grandeur, sa force. Et on a besoin des prières de nos frères et sœurs. Pour tenir bon, on a besoin de ces prières. Dieu suscite ces prières des justes, ces prières par lesquelles Dieu agit pour nous protéger. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres, comme Jésus nous a enseigné dans le Notre Père. On ne veut pas être conduit dans la tentation, mais on va être protégé par Dieu. On a besoin de ces prières. Donc on va prier les uns pour les autres là maintenant. Prions. Notre bon Père Céleste, merci pour ce chapitre difficile. Merci pour la réalité qu'il nous montre. Notre Père ici en Occident, on est souvent tenté de mettre de côté tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est combat spirituel. Tu vois à quel point nous sommes atteints, infectés, ou que notre vision est obscurcie. Et Père, nous voulons te demander de nous aider à voir clair, à ne pas oublier qu'il y a un combat spirituel. Mais en même temps, Seigneur, nous te demandons de nous aider à ne pas être focalisés là-dessus non plus. Avoir des démons partout. Mais aide-nous à nous focaliser sur notre champion, sur Jésus, sur toi. Aide-nous à voir à quel point il est puissant, supérieur au mal, le champion qui a remporté la victoire totale, finale. Donne-nous de nous confier en lui seul. Renouvelle notre vision. Parfois, on est si oublieux. On a besoin de voir clair, on a besoin de voir Jésus. Donne-nous de voir combien il est bon et combien il est fort. Donne-nous de l'aimer. Donne-nous de nous confier en lui. Et Père, nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Et là encore, dans ce domaine, nous sommes faibles. Nous avons du mal à nous mettre sur nos genoux. Aide-nous à voir ce combat, à te voir, et ensuite conduis-nous à nous mettre sur nos genoux pour prier les uns pour les autres, pour prier pour les chrétiens en Corée du Nord, pour ces chrétiens au Moyen-Orient. Père, ils ont besoin de ton aide. Renouvelle leur vision de toi. Donne-leur de te voir, de voir cette vision de cet homme pour qu'ils puissent résister, pour qu'ils voient que même dans ces moments accablants, tu es bien supérieur au mal. Prions, Seigneur, que tu les aides. Et aide-nous aussi, dans cette semaine qui vient, de nous accrocher à toi, à une bonne vision de toi, pour que nous puissions également tenir bon. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.